Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, aventurières de l'inconnu, chercheurs d'insaisissables, demandeurs du bon emploi des choses, farfouilleurs, questionneuses, insatiables, bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'onde curieuse, bonne pioche. Aujourd'hui, on aimerait suspendre le temps, mais existe-t-il seulement, le multiplier, une émission où on pourrait prendre le temps, à qui ? Et déployer sa pensée, ses idées, on aimerait mâcher du temps long pour donner à comprendre comment la science se fait sur la durée, comment elle peut transformer nos vies, par l'excitation de la connaissance, la jubilation d'avoir compris, mais aussi par l'action qu'elle éclaire. Peut-on voter Marion Maréchal Le Pen dimanche en ayant compris ce qu'une spécialiste en génétique des populations, telle que Evelyne Heyer, a mis en lumière, notamment que nous sommes tous issus des migrations ? Peut-on voter pour un parti qui minimise l'urgence climatique en fustigeant au choix l'écologie punitive ? C'est un nouveau mot attrape-tout, ça, écologie punitive. Ou ceux qui vont trop loin en prônant la décroissance ? Mais est-ce vraiment aller trop loin si on entend vraiment ce que le GIEC répète à longueur de rapport et de métasynthèse ? Non, c'est vrai. Est-ce qu'on prend moins l'avion depuis qu'on sait ? Ah non, oui, ça marche pas. La science sert-elle à quelque chose ? Doit-elle servir à quelque chose ? Mais au fait, la science, de quoi parle-t-on ? De vérité scientifiquement établie ? De recherche scientifique ? De vulgarisation scientifique ? Qu'est-ce qui anime mes invités aujourd'hui ? Le goût du vrai, peut-être ? L'envie de partager le fruit des recherches ? Toutes ces questions et bien d'autres, je me les pose à l'occasion de l'événement La belle oursette ramène sa science, qui aura lieu ce samedi au Vence. Et pour l'occasion, vous pourrez rencontrer Evelyne Heyer autour d'une conférence issue de son dernier livre, L'Odyssée des gènes, et Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, et producteur notamment sur France Culture de l'émission La Conversation Scientifique, qui donnera une conférence sur le goût du vrai, justement, et non d'un petit pamphlet qu'il a publié en 2020 dans la collection Tracts de Gallimard. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai justement le plaisir de recevoir par les ondes Étienne Klein. Bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes loin et bientôt en cours, mais on aura la chance et le plaisir de parler un petit moment avant que vous n'entriez en cours. Merci encore. Et puis, en chair et en os et en mots, avec nous, autour de la table de Fréquence 7, Sylvestre Huette, co-organisateur de l'événement, journaliste scientifique, qui tient notamment le blog Science au Carré sur le site du Monde depuis un bon moment déjà, depuis 2016, je pense, et qui a écrit notamment GIEC Urgence Climat. Bonjour Sylvestre.
Bonjour.
Et merci aussi d'être avec nous et de venir parler de cette bien stimulante initiative. Nous parlons donc du goût du vrai, de vulgarisation scientifique, de science et de politique après l'agenda. Aujourd'hui dans l'agenda, on s'abreuve d'amour et d'eau fraîche, mais aussi de questions et d'un bon coup de pédale. Prenez-le comme vous le voulez. Ce soir, alors tout est ce soir, tous les événements sont ce soir. Au navire, à Aubenas, à 20h, la réalisatrice Lisa Heurtier-Manzanares vient présenter deux de ses films, le court-métrage « Navire », des histoires de lettres d'amour jamais envoyées, et le long-métrage « En plein jour ». C'est un diptyque de documentaire autour des relations amoureuses, où il est question d'amour donc forcément, des corps, des sentiments, de la société et de la manière de les vivre. C'est une soirée organisée par le Labo 1824. Évidemment, vous pourrez discuter avec la réalisatrice après les films et même boire un coup ensemble. C'est au tarif de 6,50€ et c'est ce soir à 20h au cinéma Le Navire. Les plus audacieuses et moustillées par cette perspective pourront se rendre avant à la cantine populaire, aussi à Aubenas, où la Bibli Les Lins Lune tient sa permanence en mixité choisie. Alors mixité choisie, il faut comprendre mixité sélective, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. En gros, pas d'hommes cisgenres, mais des meufs, des trans, des PD et des gouines, alors ça ne va pas plaire à tout le monde. Les mots sont importants, hein. Mixité choisie, mixité sélective. Nous n'aurions pas assez d'une vie pour décortiquer et questionner les mots et leur véritable sens. Bref, c'est de 18h à 20h, donc juste avant le cinéma Le Navire. Et c'est l'occasion aussi de jeter un œil, si vous ne l'aviez pas encore fait, à l'exposition de photos de Marie Daucher, photos issues de son livre documentaire Et l'amour aussi, 50 portraits de lesbiennes. C'est donc ce soir de 18h à 20h à la cantine populaire. On parlait de livres parce que la Bibli, comme son nom l'indique, c'est avant tout une bibliothèque itinérante en l'occurrence. Alors les médiathèques se questionnent, elles aussi. Ça s'appelle un pataquès. Elles aussi, mais pas seules. Depuis janvier, la communauté de communes du bassin d'Aubenas a initié une démarche collaborative pour développer des scénarios de mise en réseau de la lecture publique sur son territoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Il y a 18 bibliothèques sur le territoire de la communauté de communes. Comment peuvent-elles fonctionner ensemble ? C'est tout l'enjeu d'une mise en réseau, pour vous apporter quel service, bref, qu'est-ce que vous attendez de vos bibliothèques, de chacune singulièrement, et de leur fonctionnement en commun, c'est le réseau. Pour en discuter, il y a eu déjà deux ateliers qui s'intitulaient « Parlons réseau », et ce soir, à 18h, a lieu le dernier atelier, donc pour recueillir vos témoignages, vos avis de ce que vous voulez sur vos bibliothèques. C'est à 18h au siège de la communauté de communes du bassin d'Aubenas à Ussel. On se questionne toujours, on mouline. Ce soir, à 18h30, à l'espace culturel de Meyras, avec une comédie documentée sur l'histoire de la bicyclette. De l'émancipation des femmes en passant par l'hégémonie de l'automobile jusqu'au vélo. Alors comme quoi le vélo, ça peut être l'avenir de l'automobile. La compagnie Lalouba va vous faire pédaler sec. Et c'est un spectacle qui avait été nominé au prix Tournesol d'Avignon Off en 2018. C'est une manière de ressentir notre relation intime avec la bicyclette qu'on a toujours eue dans l'histoire. Et aussi pourquoi faire du vélo ? Ça nous rend plus heureux. Vraiment, on l'a tous expérimenté. Le spectacle est gratuit, c'est dès 11 ans, mieux vaut réserver. C'est le moment de sortir son papier, son crayon. Je vous laisse quelques instants. Vous êtes prêts ? 04 75 89 01 48. Enfin, dernière actu, une actu qui tombe à pic. C'est une conférence proposée ce soir à Aubenas et qui a éveillé ma curiosité. Cette conférence est une rencontre avec Stéphane Robin autour de l'eau vivante, du cœur et de la glande pinéale. Alors, l'eau vivante. Bon, j'ai pas rencontré ce Stéphane Robin, qui est déjà venu apparemment en avril à Aubenas. Stéphane Robin qui est, comme il le dit dans une vidéo, une conscience incarnée dans ce corps en trois dimensions, qui est coach, avant tout coach sportif, et qui va donc promouvoir l'eau vivante. Alors j'avais déjà entendu parler de Masaru Emoto sur les prétendus effets que les pensées et les émotions auraient sur l'eau, des expériences qui n'ont jamais été soumises à des tests en double aveugle, hein, qui sont l'une des procédures scientifiques de base pour la vérification des expériences. J'avais déjà entendu parler de la mémoire de l'eau, hypothèse soutenue par Jacques Benveniste en 1988, scientifiquement démentie. D'ailleurs, Sylvestre, tu es à côté de moi, tu peux intervenir à tout moment. Si tu as envie de dire le terme qui commence par un B qui finit par un T, tu peux dire.
On peut, mais plus de manière plus intéressante peut-être pour nos auditeurs, l'eau ne vit pas au sens du mot « vie » en biologie. Autrement dit, c'est une métaphore de parler de l'eau vivante qui transpose un concept, une réalité d'une discipline scientifique, la biologie, d'une réalité, la vie au sens de la vie et la mort, à un objet, l'eau, qui relève de la chimie ou de la physique. Du point de vue de la discipline scientifique, l'eau ne se reproduit pas, il n'y a pas de bébé eau, il n'y a pas de papa et maman eau qui ferait crac-crac. Et ça indique que, user d'une métaphore où on transpose d'un domaine de la réalité, un concept, vers un autre domaine de la réalité où ce concept en fait n'est plus opératoire. Et ce transfert, il a souvent été utilisé en vulgarisation scientifique. C'est très dangereux parce que ça peut entraîner les auditeurs ou les lecteurs sur une piste qui, en fait, les conduit à comprendre beaucoup moins que ce qu'ils comprenaient avant la métaphore.
Merci pour cet éclaircissement. Je me suis d'ailleurs penchée un peu plus sur la question justement de cette eau vivante, et en recherchant des infos, je pense que j'arrive sur l'un des problèmes fondamentaux, c'est comment la science et les scientifiques sont considérés et perçus par une partie de la population, et bien comme des dogmatiques. Je lis sur ce site qui promeut l'eau vivante et vend divers osmoseurs, c'est pour rendre l'eau vivante, hein, pour la modique somme de 1800 euros. Le business model du bien-être ne se nourrit pas que d'amour et d'eau fraîche, fût-elle bien vivante. Et je lis sur ce site, n'en déplaise à l'approche quantitative physico-chimique, la différence entre l'eau morte et l'eau vivante s'apprécie immédiatement en bouche et se mesure par des tests biologiques. En matière de réflexion dans l'eau, nous devons penser une octave plus haut. Ceci est nécessaire pour dépasser les préjugés et le dogmatisme de la science officielle, pour tolérer un brin de mystère et de poésie. Eh bien, ça me fait frémir, car, et je pense que tous les deux, vous allez... Enfin, ça vous fait peut-être le même effet, car pour moi, mais quoi de plus mystérieux et poétique qu'une réalité que l'on ne cherche pas à adapter à nos propres conceptions, à nos propres envies ? Quoi de plus mystérieux et poétique qu'une réalité qui ne se plie pas à nos désirs, une réalité irréductible à nos fantasmes, une réalité qui ne correspond pas à ce qu'on en attendait ? Paradoxalement, l'un des problèmes ne vient-il pas justement d'une immense confusion sur ce qu'est la poésie et sur ce qu'est la science ? On en parle peut-être dans un instant, si vous le voulez bien. On va commencer à s'immerger avec quelques questions et avec Oscar Les Vacances, son titre « Les neiges éternelles ».
Au soleil j'ai froid, pourquoi les gens dansent? Pourquoi pas moi? Où meurent les pigeons? Où meurent les questions? Pourquoi j'ai mal aux doigts? Papy tu me reconnais pas? Comment être Isildur? Comment parler aux morts? J'ai jamais cru au futur, pourtant j'existe encore. Je mange un Mikado alors qu'il y a des cerises. Pourquoi mon ego? C'est la tour de Pise. Que devient Irène? Que devient Céline? J'ai mis MSN, ils sont tous hors ligne. Pourquoi j'ai 28 ans et j'en parais 12? Pourquoi t'as 30 ans, t'en parais 72? Où sont les fruits de Calabre? Où sont les condamnés? J'ai pleuré pour un arbre, j'ai dormi à côté. Elles vont bientôt couler sous les pontons, les neiges éternelles et l'odeur de tante Gisèle. Que restera-t-il dans nos vieilles maisons? Nos peurs dans les fentes et nos amours qui chantent. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Pourquoi je pose des questions? J'y réponds jamais. Pourquoi j'ai peur des frelons? Ils m'ont jamais piqué. Pourquoi on garde l'heure? Pas la réalité. Pourquoi un jambon beurre? Pour mamie, c'est végé. Pourquoi mes yeux tremblent? Pourquoi mes mains tremblent? Pourquoi on s'aime bien alors qu'on se ressemble? J'ai jamais dit maman, j'ai jamais dit papa. La première fois que je l'ai fait, c'était dans une chanson. Comment on fait un tyran? Comment on fait un panda? Est-ce que si je perds une dent, je perds une partie de moi? Pourquoi j'ai comme 5 ans, je fais encore des bulles? J'ai gobé un flanc, pourquoi les gens brûlent? Est-ce que les gens vivaient avant les stories? Est-ce qu'ils auraient pleuré devant l'historique? Pourquoi je t'ai regardé? Pourquoi t'as souri? Pourquoi j'ai bloqué quand t'es reparti? Bientôt couler sous les pontons, les neiges éternelles et l'odeur de tant de Gisèle. Que restera-t-il dans nos vieilles maisons, nos peurs dans les fantins et nos amours qui chantent? La 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 la. La la la, la 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 la.
Le flot des questions d'Oscar Les Vacances avec Neige éternelle, chanson parue il y a quelques mois dans l'album Ceci n'est pas mon corps. Très belle chanson pour commencer avec donc toutes ces questions, puisqu'il est question de questions. Dans cet entretien, nous sommes avec Étienne Klein par téléphone. Rebonjour Étienne.
Rebonjour.
Et Sylvestre Huette pour parler donc de cet événement qui a lieu samedi à la librairie, enfin non pas à la librairie justement, co-organisé par la librairie La Belle Oursette, au Vence, où vous serez, Étienne, notamment présent avec Evelyne Heyer. Vous allez nous parler du goût du vrai. Alors, d'abord, ma première question, c'est simplement pour remettre dans le contexte, à destiner à vous, Sylvestre, pourquoi avoir organisé cet événement ici à au Vence?
L'origine de cet événement, en fait, c'est que l'année dernière, pour la fête de la science, je travaillais avec les gens de la communauté de communes d'Evance et je leur ai proposé, et si on faisait venir des gens très connus, des scientifiques qui ont l'occasion de parler au grand public, et j'ai demandé à des scientifiques que je connaissais, et puis je me suis rendu compte qu'ils étaient tous déjà pris par des grandes villes pour le jour ou la semaine de la science, de la fête de la science. Et donc, on s'est dit, on va faire ça à un autre moment. Donc, on se fait une petite fête de la science au Vence, que pour les gens de la région, avec des gens qui ne viendraient pas quand c'est la vraie fête de la science nationale. Et donc, de 15h à 17h, dans la chapelle Anna Allo Monaco, juste au-dessus du parking des Vence, des Sœurs, donc c'est très facile pour se garer. Les habitants pourront rencontrer trois auteurs de livres autour des sciences, Étienne Klein, Evelyne Heyer, généticienne, et moi-même, notamment à l'occasion du livre sur le dernier rapport du GIEC. Et puis de 18h à 20h, Evelyne Heyer et Étienne Klein prononceront chacun une conférence de trois quarts d'heure devant le public qui aura une petite demi-heure pour dialoguer avec eux.
Étienne, de quoi parle-t-on quand on parle de science? C'est peut-être la première question, parce que c'est vrai que c'est tellement générique. De quoi on parle?
C'est une bonne question, parce que parler de la science au singulier, ça peut en effet créer une certaine confusion, parce qu'en réalité, dans la pratique, plusieurs sciences qui se définissent par leurs objets d'études, conditionnent les méthodes scientifiques qu'on utilise pour les comprendre, pour les étudier. Par exemple, un physicien théoricien qui écrit des théories, qui fait des calculs, ne travaille pas comme un biologiste ou comme un sociologue. Donc je dirais qu'il y a plusieurs sciences et qui se retrouvent par le fait qu'elles utilisent pour se valider, pour explorer, pour comprendre des méthodes qui peuvent être différentes, mais qui s'appuient quand même sur une forme de rigueur qui est tout à fait particulière. C'est-à-dire que la démarche scientifique, ou plutôt les démarches scientifiques, permettent de produire des résultats qu'on ne pourrait pas obtenir sans elles et qui bénéficient d'une certaine objectivité.
Et pourquoi, d'après vous, subsiste ce que je disais tout à l'heure en parlant de cette conférence qui va avoir lieu à Aubenas au sujet de l'eau vivante, subsiste cette idée la science, les scientifiques sont des personnes dogmatiques. À quoi ça tient? Alors que c'est proprement l'inverse.
Les vérités scientifiques, si on les appelle comme ça, c'est des résultats qui sont les bonnes réponses à des questions bien posées. Difficile de les contester si on n'a pas d'arguments scientifiques pour le faire. Et les résultats, il y a des questions plutôt qui sont vraiment bien tranchées. La forme de la Terre, le fait que l'atome existe, le fait que l'univers est en expansion, le fait que les espèces vivantes évoluent, ça c'est des questions qui sont réglées. Et plus de connaissances, c'est ce qu'on appelle la science. Simplement, il est incomplet, c'est-à-dire que nous savons qu'il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas la réponse. Mmh. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Et moi, je pense que la confusion, notamment pendant la pandémie, a résulté du fait qu'on a très souvent confondu la science et la recherche. Voilà, le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais c'est un doute très particulier. C'est un doute qui vient du fait que nous savons que nous ne savons pas. Nous nous posons des questions et nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Et nous faisons de la recherche pour tenter de les trouver. Mais quand on confond la science et la recherche, comme on l'a vraiment beaucoup fait pendant le Covid, alors le doute, ce doute-là en tout cas, qui est consubstantiel à la recherche, est venu coloniser les mêmes de science. Mmh. Et on dit, la science c'est le doute, et un scientifique qui nous assène des résultats, c'est un dogmatique, parce qu'il a l'air sûr de lui, alors qu'il devrait laisser une part toujours importante au doute. Or, moi je ne connais pas de scientifique qui doute de l'existence de Dieu. Je ne connais pas d'astrophysiciens qui doutent de l'expansion de l'univers, etc. Mmh. Et je pense que cette distinction entre la science et la recherche, il est important de la faire. Il y a des choses que nous savons, qui sont certaines, d'une certaine façon. Ou alors, si on en doute, il faut douter de tout. Et puis, il y a des questions que nous nous posons. Et tant qu'on ne les distingue pas, ces choses que nous savons et les questions que nous nous posons, ça distille partout l'idée qu'on peut contester ce que disent les scientifiques.
Ce goût, on a bien entendu, il y a vraiment cette distinction entre les vérités établies et la recherche qui est en cours, qui est une dynamique qui est toujours en mouvement, qui est toujours en question. Est-ce que justement ce goût du vrai ne va pas de pair avec le goût des questions?
Sans doute, mais l'expression « le goût du vrai », ce n'est pas une invention de ma part, hein. C'est une phrase, c'est une expression qu'on trouve dans un livre de Nietzsche, le philosophe, un livre qu'il a publié en 1871, qui s'intitule « Humain trop humain », et dans celui, il y a un petit chapitre qui s'intitule, lui, « L'avenir de la science », dans lequel il y a cette phrase étonnante qui me semble correspondre à la situation qu'on vit. Il dit « le goût du vrai, le goût pour la vérité, le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité procurera moins de plaisir. » Et Sylvestre et moi-même, on est engagés tous les trois dans ce qu'on appelle la vulgarisation, et je pense qu'on est tous surpris par le fait que il y a dans l'opinion publique ce que Umberto Eco, l'écrivain italien, appelait une force du faux. Il y a une force du faux, le faux est séduisant, il s'impose d'une façon très très brutale, alors que les arguments de la vérité, eux, sont faibles. On a du mal à les faire passer, il faut du temps pour les expliquer. Et si on ne tient pas compte de cette séduction qu'a le faux, à mon avis, on ne peut pas comprendre, par exemple, le fait que, c'est très bien montré dans un documentaire qui vient d'être fait sur le platisme aux États-Unis. Mmh. C'est très étonnant de voir comment des platistes peuvent se réunir en très grandes assemblées, s'écouter les uns les autres et se convaincre mutuellement que la Terre est vraiment plate. Ça semble complètement absurde et pourtant ça semble agréger des publics très très nombreux. Et ça, c'est un phénomène que moi je n'arrive pas à comprendre, mais qui me semble s'imposer de façon assez manifeste aujourd'hui. Et il faut le comprendre. Que deviendrions-nous, je parle de l'humanité, si la moitié des gens qui la constituent pensaient que la Terre est plate? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il y a des chiffres qui circulent, je ne sais pas s'ils sont vrais. 17% des gens en France pensent que la Terre est plate, ça me paraît beaucoup, je ne sais pas si c'est un chiffre doit être pris au pied de la lettre, si j'ose dire. Mais c'est même 17%, c'est quand même important. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces mouvements qui sont complotistes aient un tel succès parce que plus la France, la science avance, produit de résultats dits scientifiques, justement, qui sont objectifs, et plus les désirs de la nier, de la contester, deviennent puissants.
Est-ce que ce n'est pas une question de récit? Est-ce qu'on n'a pas juste envie d'avoir des récits désirables et que les résultats de la science sont considérés comme un récit parmi d'autres et qu'on préfère l'attrait de désirs plus enviables? Je ne sais pas, je pose.
Oui, alors je comprends en effet qu'on puisse considérer que sont vraies les idées qu'on aime. Voilà, et non pas les idées vraies.
C'est
on déclare qu'on aime la vérité, mais en fait, on déclare vraies les idées qu'on aime.
Tout à fait.
Cela dit, je ne vois pas très bien en quoi le fait de considérer, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, que la Terre est plate, rend le plus enchanté. Enfin, j'ai un petit doute là-dessus. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent dépassés par la science, par elle, et il se peut que le fait de croire à des thèses scientifiquement absurdes soit un moyen de se renarciser, c'est-à-dire de considérer qu'on a compris des choses que les gens du mainstream, comme ils disent, la majorité d'entre nous, qui sont des sortes de moutons, n'ont pas vraiment compris. On est plus intelligent que la masse, en quelque sorte.
Mm-hmm.
Et ça permet à beaucoup de gens de se redonner une sorte de se donner une sorte de promotion ontologique en se plaçant au-dessus de nous par le fait qu'ils ont compris des choses que nous ne comprenons pas parce que nous répétons bêtement ce que nous avons appris à l'école.
C'est en effet, oui, ce que beaucoup de sociologues ont mis en avant. Merci Étienne. Je sais que vous avez un cours là dans quelques minutes.
Un cours de science, oui.
pour terminer, pour vous, la vulgarisation scientifique, qu'est-ce que c'est?
Ben, ça consiste justement à expliquer comment on a su ce qu'on sait. Si on reprend l'exemple de la rotondité de la Terre. Beaucoup de gens savent que la Terre est ronde, mais il y en a quand même très peu qui savent comment on a su qu'elle est ronde. Mmh. Et à partir du moment où on a des connaissances, mais on n'est pas capable de dire comment ces connaissances sont devenues des connaissances dans l'histoire des idées, eh bien, on n'est pas en très bonne position quand ces connaissances-là sont attaquées, justement.
Mmh.
Et donc, je pense qu'on doit, dans la vulgarisation, davantage expliquer non seulement ce qu'on sait, mais comment on a su ce qu'on sait, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour que tel ou tel résultat scientifique soit obtenu et considéré comme tel. Et c'est peut-être parce que l'histoire des sciences est absente des enseignements des sciences qu'on a l'impression qu'elle est dogmatique, arbitraire, que c'est un discours comme un autre qui s'est imposé par la force de l'autorité, en oubliant d'avancer tous les arguments, toutes les preuves qui font que ce discours est fondé.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir un petit peu éclairé. On vous retrouve samedi à partir de 15h à la chapelle Anna Lomonaco à Auvence pour parler
avec
plus
plaisir.
Avant. Merci beaucoup,
avec
Étienne.
Merci. Bonne journée à tous.
Merci, bon cours. Sylvestre, c'est vraiment des questions, effectivement, des questions passionnantes. Vous avez notamment sur ce que peut la science, et justement, vous avez beaucoup travaillé sur le GIEC. Vous avez consacré un livre, GIEC.
Urgence climat.
Merci.
Chez Talendier. Moins de 10 euros actuellement en librairie. Autopub.
Alors, déjà, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est le GIEC et peut-être pourquoi il a été créé, ce qui peut éclairer ce que c'est?
Peut-être avant, je vais réagir à ce qu'il dit Étienne sur le caractère désirable ou pas de la science et des connaissances. Mmh. Alors, la recherche scientifique et la science nous donnent accès à des connaissances dont certaines vont nous sembler agréables. Par exemple, l'idée que les atomes qui nous constituent sont des poussières d'étoiles. Mmh. C'est très poétique.
Mmh.
Et pourtant, c'est de la physique. Très difficile, avec des équations très très compliquées à résoudre. Mais La plupart du temps, les gens prennent ça comme une connaissance agréable, notamment parce qu'elle est poétique. Mais la science donne des résultats qui peuvent être désagréables. Par exemple, c'est impossible aujourd'hui à un individu, quel qu'il soit, même s'il est prix Nobel de physique, de maîtriser les connaissances scientifiques accumulées parce qu'il y en a trop. Si je donne à notre dernier prix Nobel de physique un devoir de sciences de la Terre ou de biologie de fin de première année d'université, il va avoir beaucoup de mal à dépasser 10 sur 20. Et donc, le fait que on ne puisse pas personnellement accéder au corpus des connaissances qui est une cathédrale intellectuelle qui a été construite, ça peut être perçu comme très désagréable, parce qu'on a l'impression soit d'être privé de quelque chose, soit d'être un pion dans un jeu dont on ne maîtrise pas les règles. Puis il y a une autre manière d'avoir un rapport agréable ou désagréable à la connaissance. Quand, j'en viens au GIEC, quand en 1990, les scientifiques mandatés pour ça par des gouvernements du monde entier, rendent le premier rapport du GIEC et disent « Voilà, on sait qu'on va changer le climat, qu'on a d'ailleurs déjà un peu commencé à le changer, même si ça ne se voit pas encore. » Et ce changement, il est dangereux, parce qu'il va être trop rapide et trop violent pour la capacité d'adaptation des sociétés. La cause de ce changement est parfaitement connue. C'est notre usage massif du gaz, du charbon et du pétrole, les énergies fossiles, qui produisent des gaz à effet de serre, essentiellement du CO2, du gaz carbonique, c'est la même chose, dans l'atmosphère, et ça intensifie un phénomène physique connu depuis très longtemps, qu'on appelle l'effet de serre, et qui participe à ce qu'est le climat terrestre, notamment à la température moyenne de la planète. Et donc, il va falloir faire quelque chose si on veut éviter un dérapage climatique très dangereux pour le futur, c'est maîtriser notre usage des énergies fossiles en le diminuant. Ce message, il a semblé agréable à tous les gens qui avaient déjà, on va dire, une conscience écologique, qui se posaient la question du rapport entre l'homme et la nature, qui craignaient des transformations trop profondes de la nature par nos activités, etc. À l'inverse, il a été très désagréable, par exemple pour les groupes sociaux dont la richesse, la puissance économique, financière, militaire, provient de l'usage massif des énergies fossiles, notamment du charbon et du pétrole. Et d'ailleurs, ça leur a été tellement désagréable que des groupes pétroliers ou charbonniers américains ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour duper l'opinion publique, leur faire croire que les scientifiques n'avaient pas compris, qu'ils racontaient n'importe quoi, etc., etc., parce que c'était devenu un problème politique. Parce qu'il fallait prendre des décisions. Et donc, notre relation à la connaissance, il n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours agréable, pour des raisons qui sont différentes, je viens d'en citer quelques-unes, et c'est pourquoi il faut prendre le problème au sérieux, parce que nos sociétés, nos conditions de vie dépendent de plus en plus de l'usage massif de technologies qui sont issues de ces sciences. Et si on veut réfléchir à avoir le meilleur usage possible en fonction de l'intérêt général de la population humaine de ces technologies, il faut un peu comprendre comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent ne pas faire, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et ça, sans un minimum de culture scientifique, c'est impossible. Et donc, je dirais que travailler à la culture scientifique des populations à l'échelle locale, nationale, mondiale, c'est devenu une condition sine qua non pour que l'humanité soit capable d'utiliser correctement, le mieux possible, ces technologies, en sachant que un usage mauvais ou notamment piloté par l'appétit de profit ou la volonté de domination d'un pays sur un autre ou d'un groupe social sur un autre, peut produire des dégâts considérables dont des milliards de gens vont souffrir.
Et le GIEC, donc pour en revenir, est une, donc un groupement international d'experts sur le climat, et là justement pour apporter des connaissances, des outils pour éclairer les prises de décision.
Alors ce que fait le GIEC, en fait, il a été créé en 1988, en novembre, par l'Assemblée générale des Nations unies, à la demande des pays les plus riches de l'époque, dont les scientifiques leur avaient dit, aux dirigeants de ces pays, « Oh là là, il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose de grave sur le climat si on ne fait pas attention. » GIEC, ça veut dire groupe d'experts, ça c'est pour le G. Le I, c'est intergouvernemental, et sur l'évolution du climat. C'est un groupe qui, en fait, qui regroupe des centaines et des centaines de scientifiques dont le travail consiste à analyser tout ce que les scientifiques du monde entier produisent comme connaissances sur le fonctionnement du climat, passé, présent, futur, en fonction de nos émissions de gaz à effet de serre.
Donc c'est des méta-analyses, ce ne sont pas de nouveaux, ce sont des rapports qui...
Oui, il n'y a pas de connaissances nouvelles dans un rapport du GIEC, il y a l'analyse de tout ce qui a été produit par les scientifiques du monde entier sur le sujet, à la fois en termes de comment fonctionne le climat et comment il va être affecté par ce qu'on fait, quelles seront les conséquences, ça c'est le groupe 1, le groupe 2 c'est quelles seront les conséquences pour les écosystèmes naturels, domestiqués et puis pour les sociétés humaines, et comment est-ce que les uns et les autres pourront ou pas s'adapter à ces conséquences. Et le groupe 3, il s'occupe de qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la menace, c'est-à-dire pour atténuer le changement climatique en maîtrisant nos émissions de gaz à effet de serre. Et l'essentiel du travail à faire, c'est se passer des énergies fossiles pour nos économies, nos besoins quotidiens. Et on voit bien que c'est très difficile. C'est là qu'on rejoint le pourquoi c'est désagréable. C'est qu'aujourd'hui, 80% de l'énergie utilisée par l'être humain, par les êtres humains pour vivre, c'est gaz, charbon, pétrole, c'est fossile. Pour atténuer le problème à un niveau, on va dire, gérable, il faudrait que ça soit 80% de pas fossiles dans l'énergie utilisée par l'humanité, en sachant que aujourd'hui il y a encore 4 milliards d'êtres humains qui n'ont pas assez d'énergie pour vivre correctement. Par exemple, il y en a 800 millions, ils ont zéro électricité. C'est difficile de vivre sans électricité. Et donc, il y a une dimension révolutionnaire dans l'alerte lancée par les climatologues dès 1990. Et cette dimension, elle est double. Il y a une dimension révolutionnaire dans la technologie, parce qu'on voit bien qu'il faut faire une bascule complète en rupture historique avec toute l'histoire de l'industrialisation depuis 150 ans, en changeant d'énergie pour utiliser des énergies bas carbone, qui n'envoient pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Puis la deuxième, l'autre dimension, elle est sociétale. On voit bien que c'est totalement impossible d'y arriver si on n'a pas un autre rapport à la consommation des biens et des services, que celui qui est voulu, souhaité, boosté par le système économique dominant actuel, le capitalisme, avec, pour prendre deux de ses caractéristiques qui jouent dans cette affaire, les inégalités de revenus de patrimoine avec les milliardaires qui n'ont aucune limite à leur consommation et qui sont présentés comme le modèle de la réussite sociale.
C'est le plaisir, c'est le problème. On parlait de désirabilité. Ce modèle est désirable.
Et d'autre part, la publicité commerciale de masse,
qui entretient
que moi je qualifie de arme massive de destruction de l'autonomie de pensée et matérielle des couches populaires, et qui empêche les populations, qu'elles soient pauvres ou riches d'ailleurs, de se placer dans une perspective de relation sobre à la consommation. Or, cette relation sobre à la consommation, c'est une des composantes indispensables, sine qua non, à l'atteinte des objectifs climatiques, c'est-à-dire pas trop bousculer le climat au point d'avoir des problèmes ingérables.
Et ça, c'est ce qui est, c'est ce que le GIEC dit également.
Alors, il le dit, sauf dans la partie dimension révolutionnaire sociétale que je viens d'exposer. Il le dit entre guillemets presque, c'est-à-dire que dans son dernier rapport, le sixième rapport, il est très clairement indiqué que les inégalités actuelles de revenus et de patrimoine entre individus et groupes sociaux et populations n'est pas compatible avec des politiques climatiques efficaces. D'ailleurs, dans ce rapport, il y a une suggestion, c'est assez étonnant de la trouver, c'est de créer une taxe sur la richesse absolue. Là, je viens de citer un rapport du GIEC qui est considéré comme un consensus scientifique mondial. Une taxe sur la richesse absolue, ça veut dire une taxe sur le patrimoine et pas sur les revenus annuels. Et comme évidemment c'est dans le cadre d'une réflexion sur le fait que trop de riches, les riches sont trop riches, et donc ça donne le mauvais exemple entre autres, et non seulement ça conduit à des investissements dans des choses qu'on voudrait pas faire du point de vue du climat. L'objectif d'une telle taxe serait évidemment de diminuer cette inégalité. Donc, d'avoir une taxation sur le patrimoine qui soit supérieure aux revenus annuels des plus riches. Le GIEC ne précise pas ça, mais en fait, ça veut dire ça. Alors, là où le GIEC touche sa limite, c'est qu'il ne fait pas l'analyse des mécanismes socio-économiques qui produisent les milliardaires, ou qui rendent indispensable, dans l'idée de tous les dirigeants politiques des pays, la plupart des pays du monde, la nécessité, par exemple, de la publicité commerciale de masse pour manipuler les esprits et rendre les gens esclaves de ça, de la consommation. Mais c'est normal, parce que le GIEC ne peut faire que la synthèse de la science existante et de manière consensuelle. Or, aujourd'hui, dans les universités du monde entier, là où on fait de la science économique, le courant dominant, c'est le courant qui est favorable au système actuel capitaliste. Donc c'est normal que le rapport du GIEC s'arrête là. C'est aux citoyens de faire le reste du travail.
Par exemple, en votant dimanche pour des partis qui prennent véritablement en compte ce problème, et pour avoir décortiqué les programmes des différents grands partis, des différents, oui, grands partis qui présentent, pardon. Il est 12h41, mais nous devrions déjà avoir fini, c'est pour ça que je patauge dans la semoule. Il y en a peu qui prennent vraiment les choses en main. En tout cas, c'est assez clair. À partir du centre et de la droite, il n'y a plus beaucoup de choses très... Enfin, je ne veux pas être aussi tranché, mais je vous invite à lire les programmes et à voter, par exemple, en conséquence. Vous l'avez entendu, cette émission touche à la fin. On est déjà hors temps, mais c'est une discussion passionnante et que j'invite les auditrices et les auditeurs à poursuivre samedi. Au Vence, chapelle Anna Lomonaco, à partir de 15h, donc où vous serez, Sylvestre Huette, pour parler de toutes ces questions très riches, très importantes. Evelyne Heyer sera là aussi pour parler notamment de l'Odyssée des gènes, et Étienne Klein, donc à partir de 15h, rencontre, et puis à partir de 17h, conférence.
18h.
À partir de 18h, merci. À 18h, première conférence d'Evelyne Heyer, et à 19h, deuxième conférence d'Étienne Klein. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi pour une prochaine Onde Curieuse, et demain, évidemment, c'est cinéma avec Cinémascope. Ciao.